Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'aide humanitaire fournie par l'ONU à près de 4 millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie, le Conseil de sécurité a dit oui à un projet de résolution qui vise à prolonger de 6 mois la résolution adoptée pour la première fois en 2014. Le président américain en déplacement à partir de ce mercredi au Proche-Orient, Joe Biden, doit atterrir en Israël dans la soirée avant de passer la journée de jeudi à Jérusalem et de se rendre vendredi à Bethléem où il doit rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Le ministre de l'Intérieur dit vouloir permettre l'expulsion systématique de tout étranger qui a commis des actes graves en France. Le président de France Fraternité souligne que l'expulsion d'un étranger est aujourd'hui possible, notamment en cas de nécessité pour la sûreté de l'État. Pierre-Henri plaide pour l'application de la loi en vigueur aujourd'hui. Pierre-Henri sera l'un de nos invités. En Tunisie, le Front du Salut National, une coalition de formations politiques dont fait partie le mouvement Ennahda, renouvelle son appel à boycotter le 25 juillet le référendum sur la Constitution, cela malgré une nouvelle version préparée par le président Kais Saied. La valeur de l'euro et celle du dollar étaient alignées ce mardi, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis l'année de la mise en circulation de la monnaie européenne il y a 2 décennies. Il n'y aura pas de procès en appel pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Aucun des 20 accusés n'a interjeté appel. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient était Sylvie Hiver pour un roman « Au moins le souvenir » aux éditions Héloïse d'Ormesson. Un roman consacré au poète Lamartine qui fut également homme politique extrême dans votre édition. Cela concerne près de 4 millions de personnes en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce mardi une résolution qui prévoit un prolongement de 6 mois jusqu'au 10 janvier du mécanisme d'aide transfrontalière à la Syrie. Une durée imposée par la Russie alors que tous ses partenaires voulaient un an. La résolution a été adoptée par 12 voix sur 15. Cette résolution a été adoptée pour la première fois en 2014. Le texte prévoit la reprise par l'ONU de l'utilisation du point de passage de Bab al-Hawa situé à la frontière entre la Syrie et la Turquie, une région qui échappe au contrôle du président syrien Bachar al-Assad. Le président américain sera en déplacement à partir de ce mercredi au Proche-Orient. Joe Biden doit atterrir en Israël dans la soirée avant de passer la journée de jeudi à Jérusalem et de se rendre vendredi à Bethléem où il doit rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. La semaine dernière, à l'occasion de la visite en France du premier ministre israélien, Emmanuel Macron a affirmé qu'il n'y avait pas d'alternative à une reprise du dialogue politique entre les Israéliens et les Palestiniens. Le président français a aussi fait part de sa disponibilité à contribuer à la reprise du processus de paix, processus au point mort depuis 2014. Nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. Un souhait formulé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le président de France Fraternité souligne que l'expulsion d'un étranger est aujourd'hui possible, notamment en cas de nécessité pour la sûreté de l'État. Pierre-Henri plaide pour l'application de la loi en vigueur aujourd'hui. Pierre-Henri.
Je pense que c'est une déclaration qui est assez inutile, parce que le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une loi. Il y a une loi qui permet d'éloigner, ou en tout cas de se pencher sur l'éloignement de toute personne ayant été emprisonnée pour une durée de 5 ans ferme. Et cette loi s'applique à toute personne en cas de, par exemple, terrorisme, tentative d'homicide ou homicide sur un proche, appel à la haine. Et donc, la vraie question, c'est l'application de la loi actuelle et non pas l'empilement des lois. Vous savez, si on compare la situation entre la France et l'Allemagne, par exemple, la France a pour habitude de délivrer énormément d'ordonnances à quitter le territoire, près de 120 000, par exemple, en 2019. 15 000 seulement ont été exécutées. L'Allemagne a une politique beaucoup plus ciblée, 45 000 ordonnances à quitter le territoire et 25 000 exécutions. Donc voilà, les propos juste avant l'été de Gérald Darmanin vont faire le lit du Rassemblement national. Parce que quand Gérald Darmanin parle d'actes graves commis par les étrangers qui seraient susceptibles d'amener à leur expulsion, il ne précise pas ce qu'est l'acte grave. Est-ce que ça veut dire qu'il veut remettre en cause la loi qui, aujourd'hui, est d'ailleurs très peu appliquée ou mal appliquée? Et est-ce que ça veut dire qu'il veut l'étendre à de simples délits? On a vu immédiatement la réaction du Rassemblement national qui expliquait qu'ils allaient déposer des amendements, l'aider à améliorer son projet de loi parce que c'était dans un des socles du projet du Rassemblement national. Donc je ne comprends pas l'utilité de cette annonce, si ce n'est de fournir du grain à moudre une fois de plus au Rassemblement national et de les mettre au centre du jeu politique. Je pense que ce n'est pas une bonne politique et que les Français attendent autre chose. Ils ont dit autre chose, y compris pendant la présidentielle. Ce qui les préoccupe, c'est le pouvoir d'achat, la souveraineté industrielle, énergétique, de la France et de l'Europe, et certainement pas de faire une fois de plus d'établir un lien entre immigration et délinquance.
Et on l'entend, vous déplorez un empilement des textes. Ce texte qui existe déjà, l'expulsion d'un étranger qui est possible aujourd'hui en cas de nécessité pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique, est peu appliqué. Comment l'expliquez-vous?
D'abord parce que il y a la justice, et fort heureusement. Il faut que la personne soit condamnée définitivement, le dossier se regarde en fonction d'un certain nombre de critères. L'idée selon laquelle un étranger qui est arrivé par exemple à l'âge de 5 ans dans le pays, qui a commis un délit et que l'on voudrait renvoyer dans le pays d'origine, avec lequel il n'a plus aucun lien. Est-ce que ça n'est pas un sujet qu'il faut débattre? Et puis, j'ajoute qu'on ne fait pas des lois pour quelques centaines de personnes. On ne va pas améliorer la situation des Français sur le plan de la sécurité. Il est normal que les Français demandent évidemment de la sécurité. Il n'est pas normal, par contre, de faire de la démagogie sur ce sujet. C'est trop facile. Pourquoi les mesures d'éloignement ne sont pas appliquées? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que les pays d'origine, très souvent, ne reconnaissent pas leurs ressortissants et ne souhaitent pas forcément les recevoir. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que très souvent, les ordonnances à quitter le territoire sont beaucoup trop larges. Et du coup, la justice décide en toute autonomie et liberté que non, l'étranger en question ne représente pas une menace grave pour l'État. Donc il y a aujourd'hui tous les éléments qui permettent d'encadrer cela, parce que bien évidemment, il n'y a pas un seul Français qui va vous dire que quelqu'un, parce que bien qu'étrangers ayant commis un crime grave, un viol, représentant une menace terroriste, doit rester sur le territoire. Ce n'est pas la question. La question, c'est applicabilité de la loi actuelle et non pas empilement pour simplement faire le buzz et occuper l'espace.
Et là, c'est un travail à mener entre États.
Oui, il y a un travail à mener, évidemment, entre États, bien sûr. Il s'agit aussi de diplomatie. Mais le sujet est trop délicat pour que on passe par une petite annonce dans un journal hebdomadaire le dimanche, pour annoncer cela. Je pense que c'est une annonce inutile.
Le président de France Fraternité, chercheur à l'IPSE, Pierre Henry. En Tunisie, le Front du Salut National, une coalition de formations politiques dont fait partie Ennahda, renouvelle son appel à boycotter le 25 juillet le référendum sur la Constitution. Cela malgré une nouvelle version préparée par le président Kais Saied. La nouvelle mouture a été publiée au journal officiel dans la nuit de vendredi à samedi dernier. C'est une première depuis 20 ans. La valeur de l'euro et celle du dollar étaient alignées ce mardi, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis l'année de la mise en circulation de la monnaie européenne il y a 2 décennies. L'euro a ainsi perdu 13,2% sur un an. La zone euro, dépendante des importations de gaz et de pétrole, a été directement affectée par la hausse des prix liée à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Face à la 7e vague de Covid-19, la Commission et les agences sanitaires de l'Union européenne recommandent une 2e dose de rappel de vaccin contre la Covid-19 à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans au lieu de 80 ans jusqu'ici. Le 2e rappel correspond généralement à la 4e dose. Il n'y aura pas de procès en appel pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Aucun des 20 accusés n'a interjeté appel. Le procureur national antiterroriste et le procureur général près la Cour d'appel de Paris n'ont pas fait non plus appel de la décision de la Cour d'assises spéciale de Paris. Le délai d'appel de 10 jours expirait ce lundi à minuit. Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022, le Maroc jouera ce mercredi face au Botswana. Une rencontre à partir de 21h à Rabat. Le Botswana marquera ainsi sa toute première apparition en phase finale d'une CAN féminine. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient était Sylvie Hiver pour un roman « Au moins le souvenir » aux éditions Héloïse d'Ormesson, roman consacré au poète Lamartine qui fut également homme politique, extrait de cette émission.
Il est assez extraordinaire parce qu'à une époque où beaucoup de gens sont quand même très catholiques, lui est réfléchit à tout, les idées politiques, la philosophie, la poésie, comment la réinventer. Il l'a d'ailleurs pas fait exprès, mais bon, il avait un don inouï. Pour moi, je dis souvent que c'est un génie français, un authentique génie français, mais effectivement complètement oublié. Et pour lui, tout se mélangeait, la poésie, la politique, la religion, l'amour, tout ça, ça ne fait qu'un. C'est un penseur quand même, c'est un penseur politique. Il commence, c'est ça son premier livre d'ailleurs. Ce sont des réflexions autour de la politique. Ça l'a toujours intéressé, mais encore une fois, pour lui, c'est la même chose que la poésie. La poésie est, on dirait aujourd'hui, engagée. D'ailleurs, il en fait une contre la peine de mort qui est magnifique, magnifique. Moi, j'ai redécouvert plein de choses, hein, j'avais oublié. Je pensais trouver un poète, certes, qui avait été très célèbre, mais qui aujourd'hui était peut-être un peu vétuste. Je pensais vraiment ça. Quand j'ai racheté le Pléiade et que j'ai commencé à lire, mon Dieu, alors les méditations qui ont été un coup de tonnerre dans le ciel littéraire à l'époque, et je dirais qu'aujourd'hui tous les poètes en descendent, quels qu'ils soient, avec une exception peut-être concernant les surréalistes, et encore, peut-être ça pourrait se discuter, je ne sais pas, il a tout réinventé, il a abandonné parfois l'alexandrin, il a fait des rythmes nouveaux. Vraiment, c'est inouï. C'est un homme extraordinaire qui valait vraiment la peine que je me donne tout ce mal.
Il y a une phrase de Lamartine qui est restée célèbre. « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». On connaît presque plus la phrase que Lamartine.
C'est vrai, c'est vrai. Et ce que je trouve dommage, c'est que justement, quand on cite Lamartine, c'est toujours ça. Ou un ou deux autres vers très connus.
Autant suspendre.
Voilà, par exemple. Mais j'ai réalisé en le lisant, j'ai pas tout lu, hein. Parce que c'est impossible, il y a tellement de choses en prose ou en poésie, c'est pas possible, j'y aurais passé une partie de ma vie. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on lit sa poésie, il faut surtout pas citer deux vers. Ça ne mène à rien. C'est un véritable chant. Vous savez, on dit toujours que la poésie, c'est un chant. Mais là, on s'en rend vraiment compte. Il faut vraiment lire des vers et des vers et des vers pour se laisser embarquer. C'est extraordinaire. Bon, moi, j'ai toujours aimé la poésie. Mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin de l'aimer pour le lire et comprendre ce que c'est vraiment que la poésie.
Il y a un poète anglais qui lui était contemporain, Byron, qui est resté, qui est une figure nationale britannique. On est injuste avec Lamartine en France ?
On est carrément injuste. Et alors, à force de me poser la question, de savoir pourquoi il était tellement oublié, j'ai fini par avoir peut-être, une idée. Et là, c'est l'homme politique qu'il est devenu rapidement qui peut expliquer ça. Je pense qu'un homme comme lui, qui venait de ce qu'on appellerait aujourd'hui la droite, qui était royaliste, monarchiste et même légitimiste, c'est-à-dire vraiment à la pointe de la monarchie, un nom à particules, catholique pratiquant, mais ayant toujours des doutes, mais bon, ayant rendu cette deuxième république si méconnue en France en 1848, finalement religieuse, c'est drôle, contrairement à la première, je pense que quand la troisième république a vu son avènement, je pense que les dirigeants de la troisième république se sont débrouillés pour ne pas trop faire référence à Lamartine, parce que ça n'allait pas dans leur doxa. Si vous voulez, eux, au contraire, ils étaient laïcards, il fallait promouvoir la laïcité, un nom à particules, aristocrate, catho, tout ça, c'était trop difficile à avaler.
Alors Sylvie Hiver, Lamartine a été un des premiers écrivains français à accomplir un voyage en Orient, bien avant Gérard de Nerval ou Flaubert, Chateaubriand l'avait tout de même précédé. Lui, il est parti en Orient avec sa femme et sa fille Julia, qui malheureusement trouvera la mort lors de ce voyage. Qu'est-il allé chercher en Orient ?
Plein de choses, mais contrairement à Chateaubriand, il n'y est pas allé en touriste, en croisé, il y est allé pour vraiment rencontrer l'autre, avec un A majuscule. Et il avait de toute façon toujours été attiré par l'Orient. Il était de nature extrêmement admiratif de l'islam, parce que ce qu'il aimait dans l'islam, c'était cette relation directe avec Dieu. Et ça, je crois qu'il ne se fera jamais ou presque à ces intermédiaires dans la religion catholique qui le dérangeaient beaucoup. Et d'ailleurs, il était très apprécié par les Arabes. Et il le leur rendait bien, il l'avait surnommé l'émir Frangi, c'est-à-dire l'émir français de France. Et tout l'émerveillait. Il est comme nous quand on va dans les souks et qu'on voit des, il a acheté des, comme il adorait les chevaux, il a acheté des selles, il a acheté des tonnes des tapis, des kilims. Il aimait tout. Voilà. Il aimait tout en Orient, au Liban en particulier.
Sylvie Hiver, auteure de Au moins le souvenir aux éditions Héloïse d'Ormesson. Elle était l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur votre site internet radioorient.com. Fin de cette édition. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.